Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes au Salon CIMI, ça y est, c'est le lancement de ce CIMI, un rendez-vous incontournable de la planète immobilière. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Radio Immo et je commence cette journée avec Edouard Stevens. Bonjour Edouard.
Bonjour Grégoire.
Alors vous êtes directeur acquisition et asset management chez Mata Capital, peut-être commencer par dire quelques mots sur Mata Capital.
Oui, rapidement, bon, déjà je suis très content de commencer le CIMI avec vous. Mata Capital, on est une société de gestion française, on a un peu plus de 2 milliards sous gestion, sur différentes stratégies. Rapidement, une stratégie Core Plus qui représente un peu plus d'1,4 milliard et une stratégie Value Add que je représente qui fait le solde des investissements.
Alors Edouard, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce marché de l'immobilier de bureau? Bon, on voit le logement, c'est un peu la catastrophe en ce moment, notamment avec une situation politique qui est quand même bien particulière. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation du marché de l'immobilier de bureau?
C'est un marché qui est à deux vitesses, qui est à la fois à deux vitesses sur l'investissement et à la fois à deux vitesses sur le locatif, en fait, sur la prise à bail des utilisateurs, pour, je pense, deux raisons différentes. Côté investissement, la remontée des taux depuis 2 ans, l'attentisme d'investisseurs aller acquérir des nouveaux actifs de bureau,
ça a complètement freiné
le
alors qu'on vivait des années qui étaient fastes.
Exactement, avec des taux très bas, de l'argent facile et de l'argent pas cher.
2017-2018, c'était des années exceptionnelles. Après, il y a eu le Covid, ça a été...
Exactement, mais ça a quand même continué. En fait, il y a eu un trend assez long et depuis 2 ans, il a remonté des taux. Clairement, on est sur un marché à deux vitesses avec une volonté des investisseurs de centraliser et d'acheter de la centralité sur Paris, notamment. Et puis des acteurs SCPI qui cherchent des plus gros taux à l'extérieur. Et puis... d'autres types d'actifs, hein, parce qu'on s'est rendu compte que le bureau a vraiment diminué, contrairement à la logistique qui a explosé, par exemple, et d'autres classes d'actifs, mais principalement la logistique. Et côté utilisateur, donc côté locatif, un marché aussi à deux vitesses, avec une volonté de centralité. Donc on a des sociétés qui veulent récupérer des talents, avoir des locaux de meilleure qualité, aller dans Paris, du coup.
Le bureau, il a pris de l'importance, en fait, ces dernières années.
Avec le Covid, c'est devenu forcément... c'est un outil de communication. On ne va plus au bureau comme on allait avant, avec les mêmes habitudes, en fait. On est obligé de le changer, on est obligé d'être plus central, parce qu'on veut aussi attirer des talents. Quand on a des bureaux qui sont en périphérie, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a un marché... forcément qui est très ralenti en première couronne, des zones où il y a une surproduction, parce que c'est pas uniquement l'aspect volonté d'être central, c'est juste qu'il y a eu aussi un marché où il y a eu beaucoup trop de bureaux, forcément des bureaux qui se le remplissent pas, et donc un marché qui est aussi un marché d'opportunité à partir de maintenant, puisqu'en fait on va devoir transformer certaines zones, se réinventer, et donc c'est un marché à venir qui va être intéressant de ce point de vue-là.
Est-ce qu'il a évolué, il a changé aussi quand on voit le taux de vacance à La Défense, qui était un centre névralgique, et maintenant on est à un taux de vacance qui est supérieur à 20%?
Il a forcément. Alors, La Défense, c'est un exemple, un contre-exemple, parce que c'est un marché qui a toujours fait ça. Il y a eu beaucoup de production, ça s'est redescendu, des libérations, c'est un marché de grands utilisateurs. On se rend compte qu'à La Défense, avec une adaptation des prix, c'est ce qui s'est passé, des loyers qui baissent, forcément les utilisateurs reviennent. Ils partent de Rueil, ils partent de Tours, et ils reviennent.
Et donc, il y a une notion de centralité. Aussi, vous disiez tout à l'heure, d'autres classes d'actifs, il y a des écoles maintenant qui arrivent à La Défense, et il y a d'autres typologies.
Exactement. La Défense est en train de se réinventer. Ouais. Elle se réinvente par des concepts différents. On parlait des écoles, on parlait du commerce aussi, qui a beaucoup bougé à La Défense. Donc, ce qui aussi permet d'attirer des utilisateurs qui voient La Défense comme une vraie zone de bureau et de vie, en fait. Et on se rend compte, avec des prises à bail comme récemment Sanofi sur un énorme volume, c'est aussi une volonté de centralité au travers de La Défense, que c'est un hub, le plus gros hub parisien. Donc ça fait partie, pour moi, une notion de centralité. Après, c'est tout ce qui est autour qui est compliqué.
Première couronne, deuxième couronne.
Oui, en première couronne, deuxième couronne, tout autour des hubs, en fait. Typiquement, on se rend compte qu'autour de La Défense, Rueil, c'est très compliqué, la Boucle Nord, c'est très compliqué. Et c'est un peu le cas dans certaines zones, au nord de Paris, au sud de Paris.
Vous diriez qu'il y a encore des opportunités, quand même, sur ce marché?
La Défense, moi,
marché global, pas forcément.
Marché global, alors, oui, il y a des opportunités, mais plutôt des opportunités de réinventer les choses. C'est-à-dire que, clairement, dans certaines zones où le bureau tel qu'il est perçu aujourd'hui ne le sera plus demain. On va devoir changer complètement les plans d'urbanisme, en fait, pour changer la tradition qui était à cet endroit-là on fait des quartiers de bureaux, à cet endroit-là on va faire du logement. Il va falloir créer de la mixité, réduire le volume de bureaux et aussi transformer. Mais ça, du coup, ça va se passer dans les années à venir, ouais, avec une adaptation des valeurs aussi.
Justement, concrètement, comment est-ce qu'on travaille pour les rendre plus actifs, plus attractifs, ces actifs ?
Ça passe par déjà les pouvoirs publics, parce qu'en fait aujourd'hui on a des PLU. Les PLU, ils contraignent ou ils s'adaptent les destinations. Donc il faut pouvoir les changer, il faut pouvoir passer de bureaux à éducation, de bureaux à logement, résidence gérée, voilà.
Changer plus facilement les usages.
Exactement, exactement. Alors ça passe par à la fois transformer le parc actuel, ça c'est le premier point, mais également adapter les constructions de demain à plus de flexibilité. Voilà. Mais c'est une source d'opportunité qui est très intéressante, en tout cas pour nous, en tant qu'investisseurs, on va dire opportuniste value-add, on va chercher de la valeur, et la valeur ne se crée pas uniquement financièrement, elle se crée aussi par la valeur d'usage qu'on crée derrière. Et clairement, c'est un marché qui est très intéressant pour ça. Et
est-ce qu'on peut aussi encourager à des rénovations, la modernisation des équipements ? Est-ce que ça aussi, ça participe à la stratégie ?
Alors, si on parle d'équipement public, oui. En fait, on est dans une... Enfin, on l'a bien vu avec le vote du budget, on est dans une situation politique qui est très compliquée. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics ont de moins en moins d'argent. Et les faits aussi, où les bureaux se vident, créent aussi, il y a moins de taxes qui rentrent. Donc globalement, ça crée des déficits aussi dans pas mal de zones. Donc il faut se réinventer, je pense, au travers de peut-être de constructions différentes, d'augmenter, parce que la ville va forcément devoir se densifier un petit peu, donc d'augmenter la capacité de constructibilité à certains endroits pour pouvoir densifier certaines zones, réattirer des habitants et recréer de la vie et peut-être des zones de bureaux plus tard. Mais en tout cas, ça va se faire en plusieurs étapes. Mais si on doit juste compter sur l'aide des pouvoirs publics aujourd'hui pour redynamiser des zones, il va falloir que le privé travaille conjointement avec le public.
Vous l'avez dit tout à l'heure, le marché de bureau, c'est un marché qui évolue, qui va encore évoluer sur les années à venir, et notamment porté par des utilisateurs qui évoluent et dont les usages et les modes de travail évoluent.
Complètement.
Comment est-ce que le tertiaire va s'adapter, selon vous, à tous ces changements ? On l'a vu déjà, le Covid a été une vraie rupture, vous l'avez dit. Il y en aura sans doute d'autres à venir encore. On a beaucoup parlé du télétravail au moment du Covid. Là, il semblerait qu'on soit sur un train où on revient un petit peu du télétravail, sous une forme qui était quand même très libéralisée aux États-Unis, c'est-à-dire un full télétravail 100%, ce qui n'a pas trop existé en France, parce qu'on est à 2-3 jours culturellement. On va y rester à peu près, mais ça veut dire tout ça, ça implique des changements.
Exactement. L'impact du télétravail, on va l'avoir dans les encore un an et demi à venir. Parce qu'en fait, les sociétés étaient globalement engagées sur des baux qui sont entre 6 et 9 ans. Le Covid était en 2020, les impacts en 2021. Donc on est sur un trend qui continue. Donc forcément, il y a des adaptations qui sont en cours. Après, on se rend compte qu'aux États-Unis versus la France, c'est qu'il y a une notion aussi d'acquis, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. En fait, on passe de tout à rien, on est capable de revenir en arrière. En France, on a 2 jours. Ou 3 jours, et on va les garder.
C'est donc ça.
En fait, l'adaptation,
c'est culturel maintenant.
Exactement, c'est ça. Pas dans tous les secteurs, pas dans toutes les sociétés, et puis certains ont envie quand même de revenir au bureau, mais on se rend compte qu'il y a eu un équilibre qui a été trouvé. Donc maintenant, l'enjeu, c'est de faire revenir quand même les salariés pour qu'ils passent de 3 à 2, ou surtout quand ils reviennent, que ce soit des moments d'échange, des moments différents, des moments très productifs, en fait, pour que à la maison, il y a certaines tâches qui soient faites dans un souci d'efficacité ou dans une volonté de la société, et d'autres qui soient faites pour garder cette créativité et l'esprit de groupe quand les salariés seront là. Et du coup, l'immeuble participera aussi à ça.
C'est une harmonie à trouver, en fait.
Exactement.
Dans tous ces écosystèmes, et l'immeuble, il a une place vraiment centrale là-dedans.
Exactement. Et c'est aussi pour ça que les sociétés se recentrent quand même beaucoup dans Paris, cherchent des lieux. Alors après... toutes les sociétés sont pas capables de, parce qu'il y a une compensation avec les loyers, donc toutes les sociétés sont pas capables d'aller payer des loyers très chers, forcément, par effet de bord, ça va aller sur des immeubles de périphérie parisienne. Nous, on a un immeuble qu'on a livré récemment, Porte de Vanves, avec une adresse 15e, qui fait partie de cette périphérie, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la centralité pure, avec des loyers qui dépassent les 900 euros, 1000 euros. On est sur un petit peu autour, mais du coup, on arrive à attirer par des effets aussi économiques, parce que, comme je disais juste avant, toutes les sociétés ne peuvent pas se payer du 1000 euros, donc on arrive à attirer ces sociétés-là, mais en ayant conçu un produit qui permette aux employés de revenir.
C'est fini l'époque des grands campus comme il y a eu à
Saint-Denis,
je me souviens, c'était il y a 10 ans quand j'ai commencé, c'était la grande
mode. Les campus fermés sur eux-mêmes, comme il y a eu à Saint-Denis avec le campus SFR, on en parlait, mais il y en a eu d'autres dans Paris. Il y avait une notion quand même très forte d'aller agréger tout le monde à un seul endroit, mais en même temps, une notion de vie qui se perdait, parce qu'on est sur un grand campus, finalement quelqu'un qui est là et qui est à l'autre bout, on ne va pas forcément se parler, et puis il n'y a plus d'interaction avec la ville. Un peu le défaut de certains campus où on a un bunker,
un vase clos,
ce qui crée quand même des zones bah, dans le cadre de télétravail, qui deviennent complètement vides, parce qu'il n'y a plus du tout de mixité, plus du tout de vie. Donc ça, c'est ça qui doit se réinventer, en fait, pour moi, dans les années à venir.
Alors vous, chez Mata, vous avez une vraie stratégie value-added.
Exactement.
Comment ça fonctionne ?
Ça fonctionne. Alors, on est assez, on va dire, ouvert.
Ouais.
On va dire. Donc, on n'a pas de... On a toujours fait pas mal de commerce historiquement, mais plutôt dans une stratégie Core Plus, j'en parlais avant.
Ouais.
On fait plutôt du bureau dans la stratégie value-add historiquement, mais pas que.
Okay.
Fait, voilà. Et ce que l'on regarde en ce moment, c'est beaucoup de sujets de transformation. Que ça soit à la fois dans des actifs qu'on regarde à acheter et à redévelopper, mais également dans nos actifs existants. Donc on est en train de travailler sur des actifs existants pour les passer en logement, pour les passer en mixte.
Okay.
Dès qu'il y a de l'intérêt, on essaye d'aller voir les villes pour les convaincre qu'à cet endroit-là, un actif de bureau pourra plus exister, ou en tout cas, il devrait exister différemment. Donc c'est ça qu'on est en train de travailler, et on travaille avec ça, sous ce prisme-là, sur nos futures acquisitions, et le marché, et également la baisse des valeurs, vénales, hein, je parle, pas de loyer, permet justement d'absorber des coûts de travaux plus importants et d'aller regarder de la transformation. Donc on regarde énormément de sujets de transformation, et ça va être... dans les années à venir, pour moi, un moteur très fort de la dynamique value-add.
Enfin, mixité des usages, c'est ça pour vous?
Exactement. Exactement. On regarde des sujets mixtes. Alors, toujours un peu de bureau quand on est dans Paris, parce qu'en fait, vous l'avez vu, on a acheté un immeuble dans le 9e qu'on va transformer en bureau. Mais là, on a une logique différente. On a une logique bas carbone, garder l'existant, travailler au minimum sur des destructions tout en faisant un produit de qualité. Donc ça, c'est un sujet important. Réduire les îlots de chaleur, parce que dans Paris, dès qu'on a des toitures importantes, on a acheté un sujet pas très loin d'ici récemment, clairement un ancien parking, on se rend compte même en y allant, c'est ça, on y va au mois de septembre, il faisait 20 en bas, 25 en haut, enfin voilà, donc ça fait partie des sujets forts qu'on
il y a des sujets très intéressants en fait à développer.
Exactement,
c'est ça,
exactement. Et on est selon les localisations, en fait on s'adapte. Donc on regarde un sujet, on parlait de la péridéfense tout à l'heure, on est en train de regarder un sujet en péridéfense sur lequel on va rentrer en exclusivité pour le transformer de bureau en hôtel, voilà. Mais c'est l'adaptation du marché, des valeurs qui permettent de le faire.
Oui, avec là aussi une mixité. C'est un hôtel, ça peut être un tiers-lieu pendant la journée.
Exactement, exactement. Un socle actif, et puis voilà. Et ça, c'est ce qui contribue, c'est ce que les villes veulent aussi.
Oui.
Et c'est ce qu'elles faisaient, ou ce qu'elles essayaient de travailler avec des SEM, avec des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est clairement vers cela qu'il faut, nous, en tant qu'investisseurs, se pousser nos réflexions.
Dernière question, Edouard, comment vous la voyez cette année 2025 ?
C'est une année, tout le monde pensait à une reprise en 2025. Moi, je vais être très honnête, je pense que... Enfin, on le dit déjà depuis un an, mais...
On décale un peu sur la fin 2025.
Non, mais 2026, après, c'est
une année de transition.
Alors, côté utilisateur, j'aimerais bien faire le parallèle avec ça, mais les sociétés, elles sont quand même dans un ralentissement économique.
Il y a des nombre sujets de politiques d'entreprises faramineux.
Et puis on en a parlé, on n'a pas parlé avant, mais les adaptations liées à l'intelligence artificielle qui vont arriver dans les années à venir, qui vont du coup pousser quand même, pousser les entreprises à s'adapter. Et donc à adapter, peut-être un peu les immeubles de bureau d'ailleurs, ils devront s'adapter.
L'immeuble intelligent, l'immeuble connecté.
Exactement, travailler les usages différemment aussi, plus de salles techniques, peut-être avec des salles techniques sur place, des serveurs, des capacités de calcul. Enfin bref, il y a plein de sujets qu'on doit regarder, qui sont hyper intéressants. Et puis il y a le sujet investissement. On se rend compte que les vagues successives sont un peu lentes qu'on n'est pas comme dans les pays anglo-saxons, à tout de suite réduire la position, baisser les valeurs et passer à autre chose. On y va lentement en France. Et globalement, si on corrèle ça avec l'économie globale, on sent qu'il y a un ralentissement qui va continuer et une reprise plutôt 26, avec peut-être une baisse des taux, mais surtout les fondamentaux des marchés vont reprendre à cette période-là. Alors pour nous, vu qu'on a de l'argent à déployer, c'est une période hyper intéressante.
Bien sûr, voilà. Parce qu'il y a quantité d'idées à mettre en place et il faut en profiter pour les mettre en place.
C'est ça, exactement. Et on regarde de tout. Donc j'en parlais, on regarde la transformation de bureaux en hôtel, on regarde encore un peu de la logistique, parce qu'il y a encore des opportunités. On a regardé du commerce, on regarde du bureau à transformer, enfin on regarde plein de choses différentes et c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis on s'adapte en fonction des marchés.
Ouais.
Donc c'est ça qui est. On a une équipe à Lyon avec laquelle on fait des investissements. On aime bien être local.
Vous avez un marché qui est 100% français, vous faites un peu à l'étranger?
Alors on fait un tout petit peu en Allemagne, on a une équipe en Allemagne, enfin je dis un tout petit peu, c'est une équipe qui travaille très bien, mais un tout petit peu à l'échelle de Mata.
Oui.
Et après on a principalement Paris, Lyon, où on a une dizaine de personnes, dont 5 en immobilier, et l'Allemagne. Et on aime bien être sur des marchés locaux, donc on est en train d'acquérir, dans le cadre du fonds Value-Add, un immeuble à Hambourg, qui est basé là, exactement. On a acheté un immeuble à Lyon dans ce cadre-là, avec des stratégies différentes, une rénovation, restructuration d'un côté, plutôt une stratégie d'aller adresser les PME sur Lyon avec des ventes à la découpe, et à Paris, d'autres projets qui sont dans mon équipe. Donc ouais, on a des sujets divers et variés.
Bon, bah, très bien. Écoutez, Edouard, moi, je vous donne rendez-vous au 6 mi-2025 avec, j'espère, des prévisions pour 2026.
On fera le point sur les... Voilà, exactement. On fera le point sur les développements depuis l'année dernière.
Bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cet entretien qui augure une belle journée. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour un prochain entretien. Et puis, Mata Capital, on vous retrouve sur le Salon CIMI. Merci beaucoup, Edouard Stern.
Merci. À très bientôt.
Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.